Croyez-moi, personne ne passera jamais un disque Queen. La fortune sourit aux audacieux.
Freddy, et votre vie privée?
Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je fais de la musique.
Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en cœur.
C'est quoi les paroles?
Prêt, Freddy?
Ouais, c'est parti.
Tu dois ralentir le rythme, Fred.
Il leur faut un peu de temps.
Et si j'en ai pas du temps?
Alors, c'est la bande-annonce du film qui sort, Bohemian Rhapsody, aujourd'hui. C'est l'histoire du groupe Queen et en particulier de son très grand chanteur, Freddie Mercury. Et on a notre super cat pour venir nous en parler. Salut.
Bonjour. Freddie Mercury qui a toujours dit « I am the lead singer and not the leader of the band ».
OK. Donc, correct, ça.
Je trouve ça quand même assez humble de sa part. Effectivement, on suit Freddie Mercury et le groupe de 1970 à sa formation jusqu'au Live Aid de 1985 qui correspond à peu près 6 ans avant la mort du chanteur. Mm-hmm. On sait qu'il est décédé des complications du sida.
Oui.
Et ça a été, ma foi, hyper compliqué à faire ce film.
D'abord, tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu.
Est-ce que tu trouves que c'est un bon film?
Moi, j'ai adoré ça.
Mais tu aimes la musique de Queen en partant.
J'adore la musique de Queen.
Moi aussi, j'adore la musique de Queen.
J'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir ce film.
Parce que les critiques sont pas très bonnes.
Les critiques sont terribles. On dit que... c'est vrai aussi, il y a des choses qui sont vraies. C'est un film qui est en surface. On va pas en profondeur. Mais on fait l'apologie du groupe. On comprend quand même qui est le groupe, qui était Freddie Mercury. C'est juste que il y a pas de... Je pourrais dire qu'on l'a pris d'une façon linéaire.
D'accord.
Alors, c'est ce qu'on appelle un biopic classique.
Ben, on raconte à travers le film la construction de certaines des grandes chansons du groupe.
Oui.
On comprend comment ils sont.
Oui,
tout
à fait. Okay. Et je vais y revenir. Mais je vais juste t'expliquer à quel point ce film-là est parti avec une dose de malheur, là. Il y avait un réalisateur, Bryan Singer, qui a quitté la production. Il a été remplacé par un autre réalisateur qui s'appelle Dexter Fletcher, qu'on va reconnaître plus tard parce que c'est lui qui va faire la vie de Elton John, qui mm-hmm. s'en vient l'année prochaine. Okay. Le rôle principal avait été attribué à Sacha Baron Cohen, qu'on connaît sous le nom de Borat.
Borat?
Borat. Et là, il a quitté la production parce qu'il y avait une divergence d'opinion avec les gars du groupe. Après ça, on a trouvé Ben Whishaw, qui est le gars qui joue Q dans les James Bond, qui était viré aussi. Puis finalement, on a entré Rami Malek, qui est le gars qui incarne Freddie Mercury, qui jouait dans une série Mr. Robot, qui est un Américain.
Il fait bien ça?
Ben oui, il fait bien ça parce que, bon, tu sais, c'est une responsabilité immense. Il a travaillé avec des coachs de mouvement, il a travaillé la façon dont il dansait, la gestuelle, comment lancer le regard. La seule affaire qui fonctionne pas avec Rami Malek, c'est qu'on lui a posé une prothèse dentaire parce que Freddie Mercury avait une dentition assez forte. D'ailleurs, oui. Il en était hyper complexé.
Il avait des dents de trop.
Il avait des dents de trop.
Ah, c'est vrai, ça.
Une bouche trop grande aussi.
Mais il disait que c'était peut-être ça
la force de la voix.
Oui, l'ingrédient de son timbre sonore particulier.
C'est exact. Mais là, sauf que là, le personnage central, c'est comme si on lui avait collé 2 chiclettes en avant. Tu sais, c'était comme un peu trop, là.
OK.
Moi, je pourrais te dire que c'est peut-être pas la meilleure chose.
OK.
Mais sinon, je l'ai trouvé quand même très bien. Il paraît même que les dents tombaient sur le plateau. J'ai lu ça dans les histoires du film, là. Les 2 palettes tombaient. Et pour la voix, on a choisi la voix d'un Québécois. Qui s'appelle Marc Martel.
Vraiment?
Qui avait remporté un concours qui s'appelait Queen Extravaganza, qui était un hommage officiel organisé par le groupe. On avait choisi Marc Martel, qui avait fait une audition. Il avait chanté Somebody Love Me. Et on a entremêlé sa voix à la voix de Freddie Mercury. Et on a gardé le suspense de quand est-ce que c'est Marc Martel qui chante et quand est-ce que c'est Freddie Mercury. Mais je vais te faire entendre un extrait de Marc Martel pour que tu puisses entendre à quel point il ressemble à Freddie Mercury.
We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end.
Fighting, là, il l'a monté juste au bon endroit.
We are the champions. We are the champions. No time.
C'est fou, hein?
Ça, sur les hautes, il l'a, là.
Mais il a encore... Là, ça, c'est un album qu'il a fait, c'est un hommage à Queen, mais quand on quand il a fait les voix pour le film, il devait être identique, là.
Fait qu'il l'a repris aussi souvent qu'il est nécessaire pour être
parfaitement... Oui, puis lui, sa carrière est basée autour de Queen. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est tout ce qui porte la formation du groupe. C'est ce qu'on parlait un peu plus tôt, tu sais. Les membres restants, Brian May et Roger Taylor... de Queen se sont beaucoup, beaucoup investis dans le film. John Deacon, lui, qui était le bassiste, ne fait plus partie de la formation, donc c'est pas impliqué. Mais on voit comment on a construit les succès du film. Entre autres, Bohemian Rhapsody, on avait isolé le groupe en campagne parce qu'on voulait que le groupe n'ait pas de distraction. Et Freddie Mercury voulait faire un hommage à l'opéra parce que ça a toujours été un grand, grand fan d'opéra. Mm-hmm. Cet album s'appelle A Night at the Opera et on voit comment ils enregistraient les voix, entre autres les Galileo,
oui.
qui sont très très aigus. Je pense que la pièce Bohemian Rhapsody rassemble 180 pistes assemblées là, ensemble en tout. Et là on voit comment ils faisaient les voix, c'est hyper intéressant. On va entendre un extrait de la vraie pièce.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
C'est sûr que quand t'entends ça, tes producteurs, tu dis, ça pourra jamais marcher. C'était une débile, cette affaire-là.
C'est exactement ce qui est arrivé. Le producteur, la pièce durait 6 minutes. Il a dit, no way qu'on va mettre ça à la radio. Ça ne fonctionnera pas. Freddie Mercury a trouvé un ami qui était animateur de radio. Ils ont trouvé une façon. Là. Ils ont fait jouer la pièce 14 fois pendant le même week-end. Et là, c'est entré dans les radios et c'est devenu le succès qu'on connaît.
Mais
c'était des génies, tu sais. Ils se relançaient entre eux. C'était un groupe hyper créatif. Comme par exemple, Another One Bites the Dust.
Oui.
C'est la ligne de bass la plus connue au monde, je crois, tu sais, qui est la plus célèbre. Mais tout ça a été bâti autour de la ligne de bass. Il n'y avait même pas de parole.
La ligne, OK.
Ils jouaient la ligne. Puis à un moment donné, ils ont dit, ah, c'est bon, ça, OK. Mais qu'est-ce qu'on va chanter? Et c'est devenu la pièce qu'on entend, qui a été un peu leur virage funk. C'est aussi le single de Queen qui est le plus vendu au monde, 7 millions de copies vendues. Et paraît-il, ça, c'est pas dans le film, mais paraît-il que c'est Michael Jackson qui, après avoir entendu la pièce, aurait donné l'espèce de coup de pied en disant « Hey, écoutez, vous avez quelque chose, les gars, là. » Parce qu'il hésitait un peu à mettre la pièce de l'avant et que ça devienne un single. Puis lui aurait dit « Non, non, écoutez. »
Vous avez de quoi entre les mains,
vous
là?
Avez quoi entre les mains? Puis on revient aussi sur « We Will Rock You » qui a été écrit par Brian May. Moi, j'ai toujours pensé que Freddie Mercury était le seul à écrire. C'était le génie du groupe. C'était lui qui lidait tout
ça,
le monde.
Mais ça, c'était une des questions que je voulais te poser.
Ben non, c'est
la
ça.
La part créative dans ces grandes chansons-là de Mercury lui-même.
Il y en a, mais tout le monde écrivait dans le groupe. Et tu sais, Brian May, lui, a fait We Will Rock You parce qu'il voulait offrir une pièce aux fans qui pouvaient eux-mêmes faire la musique. Donc c'est comme ça qu'on a construit cette chanson-là. Puis Freddie Mercury a chanté évidemment la pièce, mais c'est pas lui qui l'a nécessairement créée.
Wow.
Donc, il y a plein d'histoires comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous alliez voir le film parce que c'est un héritage assez incroyable sur comment le groupe s'est créé. Et là, la cerise sur le Sunday, ce que moi j'ai adoré, oui. C'est qu'à la fin, on reproduit le concert du Live Aid. Il y avait 6 pièces qui avaient été présentées. On en présente 3. C'est intégral. Donc, le vrai bout de concert dure, 18 minutes, je crois.
OK, le film... reprend
oui.
la réplique oui. avec une vraie foule.
Ah oui, avec une. Ben on a arrangé ça de façon digitale, là, évidemment.
Oui, mais
on prend 3 des pièces qui sont jouées intégralement comme le concert du Live Aid. Et paraît-il que les gars du groupe, quand ils sont arrivés sur le plateau de tournage et qu'ils ont vu, ils sont tombés par terre. Ils ont dit, ben voyons donc, c'est pareil comme quand on a fait.
OK, mais. OK. Okay. Alors, donc, ils ont tourné. Une réplique du spectacle, oui. En fait, des 3 tunes, mais pas devant public. Ils ont gardé le public vrai.
J'imagine qu'ils ont gardé des bouts de public parce qu'on doit filmer de la foule, là, mais ils ont rebâti une scène. Ça se passait à Wembley dans le temps. Et paraît-il que ce concert-là, c'est non seulement la meilleure prestation de Queen qui s'est faite, mais c'est aussi... c'est le on dit que c'est dans l'histoire du rock and roll, c'est une des meilleures... un des meilleurs shows live qu'on a vu de tous les temps. Ah. Et on le voit, ça, puis cette pièce Radio Gaga qu'on entend, parce que sur la bande sonore du film, On a placé des inédits de ce concert-là, du Live Aid. Et on entend justement, avec la foule, puis on l'entend chanter. Et c'était très, très fort, là. Tu sais, je pense que c'est 80 000 personnes. Et juste après eux, il y avait Elton John qui entrait sur scène. Et quand ils se sont croisés en coulisses, paraît-il qu'Elton John a dit au gars, « Hey, vous avez volé le show, là. Qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur que ce que vous venez de faire?
Ouais. »
C'était aussi un concert où le groupe n'avait pas joué depuis plusieurs années parce que Freddie Mercury avait eu une carrière solo.
Oui.
Et ça avait créé une chicane immense au sein du groupe. Donc, c'était comme dans les premières fois où le groupe revenait avec du matériel et faisait une présence aussi devant le public. Donc, ils avaient une pression immense. La voix de Freddie Mercury n'était pas très, très en forme, très échauffée. Et puis, finalement, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable.
Ça, c'est-tu le spectacle où ils portent l'espèce de couronne sur la tête?
Non, pas du tout.
Non,
il y avait une camisole blanche avec un espèce de brassard en cuir.
Okay.
Et un jeans. C'était vraiment... Mais Rami Malek expliquait justement dans ce qu'on appelle les coulisses du film, qui avait étudié vraiment tous les mouvements de caméra qui avait eu lieu pendant le Live Aid, puis qu'on a reproduit ça intégralement, ce qui a donné ce que vous allez voir dans le film.
Fait que tu nous le recommandes, là.
Ben oui, vous dis, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça, ce qu'on entend, c'est la version inédite de We Will Rock You, justement, qui a été placée sur la bande sonore du film.
Catherine Beauchamp, merci.
C'est un vrai plaisir.
Puis écoutez, c'est... ça, c'est aussi un vrai plaisir. Ah, écoute, c'est de la bonne musique.
C'est de la très, très bonne musique.
On s'entend, là, c'est de la bonne musique. On l'écouterait jusqu'à la fin, hein? Luc Lavoie s'amène. We are the champions. We are the champions. No!